Bonjour à tous, bienvenue dans La Bêche et l'Épée, une série qui vous emmène à la découverte de l'antimafia sociale calabraise avec le voyage d'études de l'association Crimalt de juin 2025. Je suis Antoine Gouritin, créateur d'histoires sonores. J'ai eu le plaisir de donner des coups de main dans l'ombre lors de la production du podcast Crime sous Cric il y a quelques années. Et je reviens d'un voyage d'études dans le sud de l'Italie pendant lequel j'ai laissé traîner mes micros pour vous raconter tout ce que nous avons appris sur l'antimafia sociale calabraise. Et vous allez voir, ça fait un paquet de choses. Nous visiterons des exploitations agricoles, des centres sociaux, des villages abandonnés qui revivent grâce aux réfugiés, et nous terminerons par une chanson en dialecte calabrais offerte par un chanteur du cru sur le parking d'une petite gare. Vaste programme. Et je ne serai pas seul pour vous emmener dans ce périple, puisque je suis avec Fabrice Risoli, président de l'association Crimalt, et organisateur de ce séjour avec François Famelli, son fidèle vice-président qu'on salue. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Dans cet épisode, avec les membres du groupe et les Calabrais rencontrés pendant le voyage, tu vas nous expliquer comment fonctionne la 'Ndrangheta, la fameuse mafia locale. Et évidemment, c'est toujours mieux de connaître l'ennemi et le contexte avant d'échafauder des stratégies de lutte.
Alors, bonjour. Bonjour.
Bravo. Belle effort.
Bienvenue.
Ok.
Bienvenue in Calabria. Io parlo in italiano, parlerò piano e poi François mi farà la gentilezza di tradurre, mi fermerò.
Fabrice, je l'ai dit, tu es président et fondateur de Crimalt, mais tu es aussi, avant tout peut-être, de docteur en sciences politiques, spécialiste de la criminalité organisée et des mafias. Nous revenons donc du sud de l'Italie et plus précisément de Calabre. Alors, on peut lire régulièrement que la mafia calabraise est l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Les militants anti-mafia que nous avons rencontrés pendant cette semaine sur place ont tous insisté sur des chiffres de volume d'affaires qui n'étaient pas toujours les mêmes, qui étaient toujours très importants. On comprend bien, et il faut se battre, on se bat contre très fort, forcément. Mais même si c'est difficile à calculer, il y a évidemment beaucoup de vrai là-dedans. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu ?
Oui, alors c'est intéressant qu'on se soit un petit peu entre chercheurs, gens qui font des études, entre guillemets, disputés sur les chiffres. D'abord, comment calculer les chiffres du crime organisé ? Il laisse pas de facture. C'est compliqué d'évaluer le trafic de drogue, etc. Bon. Il y a des chiffres qui montrent une mafia calabraise extrêmement puissante, qui gagnerait 44 milliards par an. C'est très certainement exagéré, mais la puissance de la mafia calabraise, on la connaît. Elle a eu une grande capacité à faire venir énormément de cocaïne depuis 30 ans en Europe, notamment par le port de Gioia Tauro. Ensuite, elle tuait beaucoup. Il y avait énormément d'assassinats. Les familles sont composées de familles biologiques. Et donc, une des caractéristiques presque uniques au monde, c'est que dans cette mafia, comme on doit être de la même famille biologique pour être dans la mafia, alors c'est difficile de témoigner contre son père ou sa mère. On a le phénomène des collaborateurs de justice, qu'on appelle à tort des repentis en Italie, qui fracturent le système criminel de l'intérieur. Mais là, en Calabre, si vous témoignez, il faut regarder son père dans les yeux au tribunal et l'envoyer à la prison à vie. C'est un peu plus compliqué que de le faire avec quelqu'un qui n'est pas son père, voire sa mère, ou etc. Donc cette puissance de la mafia calabraise, elle est beaucoup due à sa capacité à avoir été grande, grande importatrice de cocaïne en Europe, des assassinats qui ont cessé, et ce côté très familial, est très imperméable, mais c'est en train de changer. On a aussi aujourd'hui pas mal de collaborateurs de justice en Calabre.
J'ai lu le journaliste Antonio Talia avant de partir. C'est intéressant parce que son livre, en plus qui est sous-titré sur les routes secrètes de la mafia la plus puissante du monde, ça parle des routes justement qu'on a empruntées. C'est cette côte est de la Calabre, au bord de la mer Ionienne donc. Et pourtant, de prime abord, tout semble très calme quand on arrive. Et une ville comme Locri, on a logé à Locri, on va en parler, donne pas forcément l'impression d'être l'une des capitales mondiales du crime organisé. Quand on lit le bouquin de Talia, on est en plein dedans pourtant. Enfin, Locri a une place très importante dans le livre. Et le calme apparent nous a tous un peu surpris, à commencer par Gilles, qui étudie pourtant ces mafias, mais qui se rendait sur place pour la première fois. J'en ai discuté avec lui un soir sur le toit de l'hôtel.
J'ai lu tellement de choses sur la 'Ndrangheta, sur la mafia d'ici. Et même, je sais pas, j'ai l'impression que ce groupe n'est pas forcément au courant, mais on est dans un endroit qui est extrêmement mafieux. Vraiment, dans le passé, mis à part les guerres qu'il y a eu, dans cette ville aussi, Locri, entre différentes familles, on est dans un environnement qui est un niveau d'infiltration mafieuse super élevé. Et c'est pas quelque chose qui est dans le passé. Et il faut savoir aussi que le rapport entre la mafia et le territoire dans cette région, il est extrêmement différent, par exemple, des autres régions, que ce soit dans le nord de l'Italie ou à l'international. Il y a vraiment un rapport qui est beaucoup plus territorial, beaucoup plus de contrôle. Et du coup, il y a tous ces a priori qui, avec le temps, ont commencé à changer. Par exemple, le fait d'être crispé, de me dire « Ok, je sais pas, il faut que je fasse gaffe à qui je regarde, à comment je bouge, parce que je sais pas en fait, je sais pas qui je vais croiser, peut-être des gens voilà, qui font partie de ces organisations. » Et je pense que au sein de notre groupe, il y avait aussi un peu cette appréhension.
Fabrice, comme le disait Gilles, le calme n'est qu'apparent, la discrétion étant nécessaire pour le business, la région est en tout cas toujours sous contrôle.
Les experts aiment bien se battre là-dessus. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un vrai changement depuis 20 ans que l'État italien lutte à peu près efficacement contre la mafia calabraise. Donc quand vous reprenez le livre d'Antonio Taglia, qui est très bien fait, il vous reprend l'historique de cette route de la côte Ionienne, qui n'est pas une autoroute, alors que de l'autre côté, il y a une autoroute. Et il refait toute l'histoire des villages et il refait l'histoire des faïdas, des affrontements entre familles où on s'entretue. Alors à propos de l'Ocri. Quand on reprend l'historique, c'est très 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 intéressant parce que ça commence par une fusillade sur un marché dans les années fin 60 où il y a des victimes innocentes. On oublie toujours que quand les gangsters s'entretuent, ils ne font pas que s'entretuer entre eux, ils tuent aussi des gens qui n'ont rien à voir. Le cri, ça commence comme ça. Bien, depuis 20 ans, il n'y a plus d'homicides, il n'y a plus d'assassinats. Moi, je pense que c'est un gain, que déjà on a gagné quelque chose si les gens ne s'entretuent plus. En revanche, tout le monde sait que l'argent qu'ils ont gagné ou qu'ils continuent parfois à gagner dans le trafic de drogue et ailleurs, ils l'investissent dans l'économie légale. Et il ne faut pas être naïf. Tel hôtel, tel restaurant, si on enquête, on sait que ça va appartenir à la famille, etc. Des Cataldo, par exemple. Autre exemple très intéressant pour nous, nous avons dormi dans un hôtel où le terrain et l'ancien immeuble avaient été confisqués à la famille Cataldo, qui continue à habiter à côté. Et aujourd'hui, c'est un hôtel anti-mafia où on peut, nous, aller dormir en toute sécurité. Il y a donc une vraie révolution, selon moi, entre avant les années 90-2000 et maintenant, il y a un vrai mieux. Pour autant, on sait que la mafia est encore présente et c'est aussi ce que nous avons découvert pendant ce séjour d'études.
Donc c'est un contrôle territorial, en fait, qui se fait toujours, même si la plus grande part du business est plus faite en Calabre.
C'est toujours un contrôle territorial, parce que l'Ocri est divisé entre ces deux familles. On sait qu'il existe encore du racket de commerçants. Très clairement, un commerce qui serait racketé par telle famille, les Cataldo, ne peuvent pas être racketés par la famille rivale. Mais ils arrivent à s'entendre. La différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, si un commerçant refuse de racket, il n'est pas assassiné tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas de menaces. On a des exemples de commerçants qui reçoivent des menaces par téléphone, on menace leurs filles, on brûle leurs voitures, mais ils ne sont pas tués tout de suite. C'est déjà quelque chose qui est gagné. Donc oui, il y a la notion de territoire, mais ils essayent de ne plus s'entretuer. Et on peut dire non, et c'est ce que montre d'ailleurs notre séjour d'études.
Et justement, c'est bien les initiatives qui visent à casser ce contrôle territorial que nous avons pu étudier sur place et qu'on va présenter dans ce reportage. J'avais envie de commencer par celui qui est au centre du plaidoyer de Crimat, la confiscation des biens du crime organisé, la confiscation et la réutilisation aussi. C'est une attaque par le droit, c'est parfois assez technique. Je renvoie les auditeurs au site de Crimat, qui est plein de ressources sur le sujet. Et le voyage a pu rendre les choses très concrètes. Je pense par exemple quand on a rencontré Michele Cogna, qui est l'un des élus en pointe sur le sujet en Calabre. Tu me dis si je me trompe. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, qui connais bien ce sujet-là, de cette entrevue et de cet aspect peut-être plus concret des choses ?
Alors typiquement, ce que j'ai retenu, c'est qu'on arrive sur un territoire où la mafia est encore puissante, elle rackette, elle conditionne. Mais il y a quand même des espaces de liberté, des micro-territoires libérés. L'hôtel dans lequel on a dormi est le cas. Et la ville de Michele Cogna, le maire qui nous a reçus, en est un autre. C'est un des derniers maires communistes. Et surtout, il nous a fait visiter un énorme bien confisqué à la sortie de la ville.
C'est important le bruit des chiens. Exactement.
Il y avait un espèce de terrain agricole, un hangar, qui était possédé par une famille mafieuse, complice du clan. Aujourd'hui, c'est confisqué, bon, c'est juridique, d'accord. L'État reste propriétaire. La mairie en a la libre disposition, mais elle doit faire des projets sociaux dedans. Donc là, a été choisi de construire, un peu comme d'ailleurs l'hôtel dans lequel on était, de construire un nouveau bâtiment sur ce terrain confisqué. Et ce terrain, ce bâtiment, ce nouveau bâtiment, accueillera des femmes victimes de violences. On sait combien aujourd'hui, on a eu l'Espagne, on a la France, l'Italie met un peu les violences faites aux femmes comme des priorités dans le monde juridique. Il faut des structures d'accueil pour que les femmes qui sont victimes de violences puissent être accueillies avec leurs enfants. Quel symbole plus puissant pourrait-on apporter que là où avant ces femmes étaient battues, où il y avait de l'impunité, aujourd'hui elles sont dans une structure qui a été confisquée à la mafia. Il y a une espèce de réparation sur le territoire. Le territoire en géographie, c'est espace plus population, hein. C'est pas uniquement l'espace. Il y a une réparation par cette confiscation, il y a une réparation faite aux populations du dommage créé par la mafia, voire du dommage créé par d'autres formes de criminalité.
Évidemment, hein, depuis qu'on a passé la barrière brillamment, tout est confisqué ici. Mais le centre de l'anti-violence contre les violences faites aux femmes sera construit de ce côté-là.
Il luogo dove dormiranno le donne proprio il centro antiviolenza. Però il bene da quando siamo entrati fino a qua farà tutto parte di questo centro antiviolenza.
Donc ici les femmes dormiront. Mais tout le bien est à disposition du centre de d'accompagnement des femmes victimes de violence.
Qua verrà fatto il giardino sociale.
Un jardin social.
E nei capannoni verranno uno buttato là, gli altri oui. Recuperati per fare anche lì spazi di aggregazione culturali e sociali.
Là-bas, il y aura des salles pour pouvoir faire des activités, mais un des deux hangars, un des deux biens sera détruit par contre.
Uno spazio per bambini.
Un espace pour les enfants.
E poi qua, diciamo, il centro per le donne che subiscono violenze.
Là, le centre pour les femmes victimes.
Verrà aperta anche una strada da lì per scendere.
Ah, il y aura un accès routier qui sera fait aussi par là.
Ce que j'ai retenu moi aussi de ces discussions-là, c'était les tensions, forcément, les petits arrangements aussi pour certains propriétaires, anciens propriétaires, pour récupérer ces biens-là. Michele Cogna nous a parlé des stratégies aussi des familles, je crois, à un moment, pour reprendre possession des biens immobiliers qu'il utilise. C'est quelque chose forcément qui arrive régulièrement encore.
Alors oui, ce qu'on apprend grâce aux maires, parce que c'est des témoignages de première main, qu'ils ont les biens confisqués sur leur territoire, qu'ils peuvent subir des petites menaces ou des petites magouilles pour qu'effectivement ces biens qui sont confisqués, qui appartiennent à l'État, ne soient pas réutilisés. Alors tout d'abord, il faut savoir que souvent les maires sont confrontés au fait que la famille continue à habiter dedans. Parce que c'est bien, ça a été confisqué en droit, mais après il faut expulser les gens. Alors il faut les expulser, mais parfois il y a encore la grand-mère qui vit là, etc. Donc c'est pas simple. Ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les mafieux jouaient souvent sur l'affect. Et puis c'est la structure familiale calabraise qui fait qu'on vit encore avec ses anciens à la maison, et d'ailleurs c'est très bien. Mais du coup, on peut pas expulser. Oui, d'accord, mais enfin, c'est l'argent de la drogue qui a permis d'acheter la maison, il y a un moment, il faut expulser. Donc il y a des maires qui freinent. Lui, il ne freine pas, il le fait de manière juste. Mais il faut expulser. Ensuite, bien sûr, tous les agriculteurs peuvent être tentés de, par exemple, brûler le champ d'à côté qui a été confisqué. Encore une fois, je pense qu'on a gagné quelque chose, c'est qu'avant, on tuait les personnes qui luttaient contre la mafia. Là, on les décourage. On brûle leur récolte. On endommage le tracteur pour les productions agricoles. On peut mettre de la colle dans les serrures, de manière à ce que vous ne puissiez plus pénétrer sur le terrain ou dans votre logement. Et vous avez des recours hein, qui sont faits aussi de manière juridique pour faire en sorte que le bien, certes, il est confisqué, on ne peut rien faire, mais surtout les mafieux ne veulent pas qu'il y ait une activité d'intérêt général qui va contre leur pouvoir du quotidien.
Et ça, ça a aussi fait réagir Gilles, qu'on entendait tout à l'heure, étudiant en géographie et membre de la délégation Crimalt lors de ce voyage.
Mais même le message que Fabrice a envoyé sur le groupe le premier jour.
Bonjour, maintenant que vous ne pouvez plus reculer, je vous annonce que nous allons dormir dans un bien confisqué. Et en plus, la famille mafieuse qui a été spoliée habite toujours à côté. Bienvenue en Calabre.
C'était marrant, mais c'était pas marrant en vrai, savoir qu'on est sur un bien confisqué. Et là encore, il y a tout un discours comme quoi c'est le terrain qui a été confisqué. Après, ils ont reconstruit dessus, du coup, il y a une dynamique qui change encore. Mais savoir que les voisins qu'on va côtoyer font partie du clan majeur de la ville et qui, voilà, ils sont à côté parce que c'est comme ça que ça se passe. À qui était le terrain, ça fait un petit effet, quoi, je veux dire. Mais bon, finalement, on voit qu'on est des touristes, on est étrangers, on représente quand même, voilà, je sais pas, une valeur différente, pour, même pour la région, pour tout le monde. Quoi, du coup. C'est normal qu'on ait un traitement différent et que finalement, on est là en observation, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Et voilà.
Bon, Fabrice, à ma connaissance, personne dans le groupe n'a été approché par des mafieux pendant le voyage, il me semble pas. Comme le disait Gilles, c'est vrai qu'un groupe de Français, ça se repère sûrement assez facilement, en plus en voyage d'études sur le sujet. Mais il y a quelque chose qui est revenu assez souvent dans les rencontres avec des locaux qui luttent contre la mafia, c'est l'histoire du café. Et le premier geste qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas finalement, parce qu'on a parlé du droit, mais on va commencer à parler, tu l'évoquais déjà un tout petit peu, mais on va parler des initiatives de lutte un peu plus quotidiennes ou concrètes. Le premier geste, c'est de refuser de prendre un café avec une personne qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on connaît justement, mais avec qui on ne veut pas prendre de café. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là ? C'est un passage important.
Alors, une des forces de la mafia, cette espèce de société de la proximité avec des petits villages où tout le monde se connaît. On sait très bien qui est mafieux, qui ne l'est pas. Et effectivement, tout peut devenir vite un problème. Les mafieux ayant l'habitude de vous donner des petites faveurs ou des petites choses pour que vous soyez après tenu par elles-mêmes, hein, tenu par la peau des couilles, hein, s'ils vous prêtent de l'argent, par exemple. Mais ça peut être simplement vous offrir un café. Et alors, vous acceptez. Donc, quelque part, en acceptant le café que vous a offert le mafieux, vous reconnaissez son pouvoir sur le territoire. On en est là, en Calabre. Ça me permet de faire un clin d'œil à la Corse, car nous emmenons régulièrement des Corses, membres de collectifs anti-mafia, qui pensent qu'on ne peut pas faire de l'anti-mafia en Corse parce que c'est une société de proximité. Ils se trompent. C'est ce qu'on a découvert en Calabre. Alors, deux choses à propos du café qui nous a été raconté, que les militants calabrais sur place, donc, faisaient très attention à ne pas accepter le café. Alors, de l'autre côté de la Calabre, dans un autre Erasmus, une autre coopérative nous a raconté la même histoire, où ils ont refusé le café. C'était il y a une dizaine d'années, plus de 10 ans quand ils ont commencé la coopérative. Et les mafieux se sont vengés, vous savez comment ? En mettant du sucre dans l'essence du tracteur, dans le réservoir d'essence du tracteur. Le tracteur foutu. Un tracteur, c'est 50 000 euros, hein. C'est pas un petit budget. Puis vous pouvez plus récolter les choses, etc. Voilà comment la mafia se venge, cette guerre d'usure dont je vous ai déjà parlé. Ça a donné quand même des autocollants dans la ville de Polistena, de l'autre côté, où l'anti-mafia se transforme en revendication de ne pas accepter un café d'un mafieux. Donc on a eu cet écho cette année, c'était très intéressant pour moi, de quelque chose que j'ai découvert il y a 5 ans dans un autre Erasmus+, de l'autre côté de la Calabre. Et là, on comprend bien que les gens qui sont sur le territoire sont en lien avec les mafieux, ils habitent à côté, ils les emmerdent s'ils peuvent, et faut tenir bon, faut garder la tête droite. Peut-être une dernière anecdote, quand l'hôtel dans lequel nous avons dormi a été inauguré, je crois en 2018, bien confisqué, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de menace. Mais lors d'une manifestation anti-mafia, inauguration et manifestation anti-mafia, je crois le 21 mars 2018 ou 19, il y a eu une inscription mise dans la nuit, en italien, « Meno sbirri, più lavoro ». Moins de flics, moins de policiers, plus de travail. C'est typiquement un message mafieux pour dire « Vous nous piquez nos biens, c'est un truc de spoliation, c'est un truc de flics, c'est un truc de policiers, c'est un truc de méchants contre nous ». Nous, ce dont on a besoin, c'est du travail. Alors, cette anecdote est très importante, parce que c'est une espèce de menace, quand même, c'est une délégitimation du combat anti-mafieux. Et en même temps, les mafieux, faut le dire, la viennent appuyer sur quelque chose qui est important. C'est-à-dire que la Calabre, c'est la pauvreté. C'est le sous-développement, je l'appelle le sous-développement organisé, avec trop de chômage des jeunes, avec des conditions économiques qui ne vont absolument pas. Et précisément, Goël, notre partenaire, celui qui nous a accueillis, est pour un développement économique efficace et légal pour lutter contre la mafia. Précisément, il est d'accord avec cette affirmation, en tout cas, oui, il faut du travail si on veut lutter. Les policiers, ça ne suffit pas.
Merci Fabrice pour la transition et pour ces éclairages, surtout sur la situation mafieuse en Calabre. Je crois qu'on a une bonne idée maintenant de l'ambiance générale. Dans le prochain épisode, on parlera justement de ceux qui refusent le café, à commencer par Goël, dont tu viens de parler, une coopérative de coopératives originales qui nous a accueillis. On parlera de fêtes anti-mafia, de modèles agricoles et d'économie sociale et solidaire.